7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. On entend rarement le mot migrant sans entendre celui de crise.
La crise des migrants s'invite à nouveau au menu d'un sommet.
Le mini-sommet était destiné à trouver des solutions à la crise migratoire.
Des migrants débarquent chaque jour sur les plages.
Et les associations ne peuvent plus faire face.
Plutôt que de crise des migrants, ne devrait-on pas plutôt évoquer une crise de l'accueil en Europe? Après la polémique sur l'Aquarius, le bateau de l'ONG française SOS Méditerranée qui n'a pas été autorisé à débarquer sur les côtes italiennes, pourquoi l'accueil des migrants est-il si compliqué dans certains pays européens? La France n'est peut-être pas championne du monde partout. Comment se passe l'accueil ailleurs? La Turquie, par exemple, est le premier pays d'accueil au monde avec 3 millions de réfugiés, plus que l'Europe tout entière. Alors faut-il changer de regard pour changer d'accueil? C'est ce que vous proposez, Sabah Ramani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen qui consacre un dossier spécial à cette question de l'accueil des migrants et vous mettez en avant notamment des initiatives positives menées par des demandeurs d'asile. Bonjour Laure Palin.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice associative de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, l'ANAFE, et vous travaillez notamment sur les zones d'attente à la frontière franco-italienne. Cyril Anab, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, vous réfléchissez à créer plutôt que des camps, des quartiers d'accueil dans les villes. Un documentaire, La Ville Monde, réalisé par Antares Bassis, revient sur votre expérience au camp de la Linière à Grande-Synthe, dans le nord de la France, près de Calais. Un documentaire qui sera diffusé le 23 juillet sur la chaîne France 3. Et Antoine Lalanne-Desmé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à RFI. Cet été, vous nous proposez une série d'été, chaque samedi, Les Ondes de l'Exil, extrait d'ateliers radio que vous avez mené au Liban, en Grèce et en France. À Calais. Les voisins, les voisines, on attend vos commentaires, vos questions pour nous inviter au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71 et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et comme chaque lundi, en fin d'émission, nous retrouverons un portrait de l'Afrique qui gagne, portrait aujourd'hui du créateur Christian Zellat. Alors, il y a quelques semaines, la France s'est résolue à accueillir 51 migrants secourus en mer par le Lifeline. Un peu plus tôt, la France avait accepté, en les triant sur le volet, d'accueillir des personnes migrantes secourues, elles, par le bateau de l'Aquarius après des semaines de tensions avec l'Italie. Laure Palin, la crise des migrants est-elle une crise plutôt des pays d'accueil? Donc avec des pays d'accueil qui se renvoient la balle sans cesse.
Oui, effectivement, la crise, ce qu'on appelle la crise des migrants ou la crise de l'accueil, est en réalité une crise des politiques migratoires européennes, sur laquelle s'ajoute, à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on constate, et c'est le cas, c'est ce qu'a pu vivre l'Aquarius ou le Lifeline, une crise de la solidarité véhiculée par les dirigeants politiques européens, qui, en plus de faire des politiques qui ne permettent pas d'accueillir sur le territoire les personnes, bloquent les personnes aux frontières de l'Europe et qui, en plus, pour certaines personnes, enfin pour de plus en plus de militants, criminalisent les militants qui viennent en aide aux personnes exilées en difficulté.
On pense à Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur, qui a décidé d'interdire l'accès aux ports italiens, aux ONG qui portent secours aux migrants, notamment.
Oui, mais pas uniquement. Si on retrace le chemin qu'a parcouru l'Aquarius entre l'Italie et l'Espagne. L'Aquarius est passé à 7 km des côtes françaises, ce qui aurait pu... un débarquement en France aurait pu être fait. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été le choix politique qui a été décidé. C'est assez regrettable à notre sens.
Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les zones de rétention, notamment la frontière franco-italienne où vous travaillez?
Alors nous, on travaille dans les zones d'attente, ce qui est vraiment différent des centres de rétention qui sont, eux, sur le territoire français. Donc les zones d'attente sont des lieux privatifs de liberté dans les ports et les aéroports et les gares internationales, donc du coup qui concernent principalement ce qu'on appelle les frontières externes de l'Union européenne. Donc nous, on intervient dans ces lieux-là, où on constate des violations des droits depuis à peu près 30 ans. Et nous travaillons également à la frontière franco-italienne, que ce soit à la frontière dite basse, c'est-à-dire Menton-Vintimille, mais également dans le Briançonnais, où on travaille avec les associations sur le terrain. Et on constate depuis juin 2015 une fermeture de la frontière, déjà avant la fermeture officielle en novembre 2015, et on constate une privation des droits des personnes, y compris des demandeurs d'asile et des mineurs, alors que les mineurs doivent être protégés, quand bien même ils seraient à la frontière, et les demandeurs d'asile devraient pouvoir enregistrer leur demande d'asile, ce qui n'est pas le cas. On constate une privation de liberté sans cadre légal de ces personnes-là, à Menton, Pont-Saint-Louis et au col de Montgenèvre, et un refoulement quasi systématique de toutes les personnes qui se présentent aux frontières. Il y a eu plus de 50 000 refus d'entrée depuis le début de l'année.
Et ces violations des droits se sont accrues ces derniers mois ?
Alors, ce sont des violations qui sont constantes pour ce qui se passe à la frontière franco-italienne, avec quelques évolutions, parce que du coup, on a initié plusieurs contentieux, notamment pour des mineurs qui avaient été privés de liberté à Menton, Pont-Saint-Louis, et qui avaient été refoulés. Et il y a eu plusieurs condamnations du tribunal administratif en janvier et en février, qui ont enjoint la France d'accueillir et de protéger ces mineurs. On a eu la même situation en mai, on a également une décision du tribunal administratif de Nice qui, suite au refoulement d'un demandeur d'asile par la police aux frontières françaises, à cette frontière-là.
Antoine Alain Desmet, vous êtes allé au Liban, en Grèce, en Irak et en France. Qu'est-ce que vous avez pu observer en termes d'accueil réservé aux migrants d'un pays à l'autre ?
Oula, c'est très différent d'un pays à l'autre, c'est évident. Moi, forcément, une situation qui me touche le plus, c'est celle de Calais, forcément, puisque je suis français, et donc de voir ça, c'est assez souvent difficile. Surtout que, à Calais, c'est vraiment, la situation est vraiment très complexe. Les associations peuvent difficilement intervenir. Les personnes migrantes ont peu de repos. Ils sont dans des situations de très très grande précarité. Après, qu'est-ce que j'ai pu voir selon les pays? C'est vrai que c'est à chaque fois assez différent. Il y a des endroits où il y a des camps, tout est organisé. Il y a des endroits où comme à Calais, où il n'y a pas du tout de camps. Les gens se débrouillent comme ils peuvent. Parfois, ils vivent à la rue. Ça varie beaucoup d'un pays à l'autre.
Alors, vous menez des ateliers radio avec l'association Microcamp, donc au sein de centres ou de camps pour migrants à travers la planète, avec une idée simple, c'est que les personnes s'approprient leur discours, produisent leurs propres émissions avec leurs propres questions. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Bahan, afghan, la vingtaine, que vous avez rencontré à Calais à l'occasion d'un de ces ateliers. Il est interrogé par Aman, bénévole érythréen du Secours catholique.
On essaye simplement de traiter des gens comme des humains, qui ont droit au moins à un minimum que l'on accorde aux animaux, que l'on ne leur accorde pas. Ils n'ont pas de place pour dormir, on les rejette de partout. Pour manger, même à midi maintenant, ils sont rejetés. On doit chercher des lieux tout le temps, changer de lieu pour qu'ils puissent manger, boire. C'est extrêmement dur et pour nous, c'est vraiment insupportable. Et moralement, c'est très très lourd. J'aimerais tellement que tout le monde comprenne que leur ouvrir les bras, aller vers eux, c'est vraiment aller vers des gens magnifiques. Bien sûr, c'est comme dans tout groupe, il y a forcément des gens moins bien. Ça, c'est dans tout groupe, dans toute humanité, dans tout peuple, quel qu'il soit. Mais la majorité d'entre eux, ce sont des gens qui nous ont énormément enrichis nous-mêmes. Ça a été un vrai partage, ce sont des rencontres riches que l'on vit avec eux. Et moi, je souhaite à toute personne de pouvoir les rencontrer, de pouvoir vivre un moment avec eux.
Alors, ce n'était pas Bahan, petite erreur technique, mais Véronique, bénévole que vous avez rencontrée à Calais, bénévole du Secours catholique.
Oui, exactement. Et Véronique, c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Les bénévoles, c'est à Calais, mais ça se trouve dans plein d'endroits en France et même partout dans le monde. Et ça, d'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué dans mes ateliers. Il y a des bénévoles qui s'investissent vraiment pour l'accueil des exilés. C'est vraiment impressionnant. Et ils donnent toute leur force, tout leur cœur pour que tout se passe au mieux. Et ça, c'est vraiment admirable. Et Véronique fait vraiment partie de ce genre de personnes.
Alors, la jungle de Calais a été démantelée à l'automne 2016. Certains migrants sont partis en centre d'accueil et d'orientation, mais d'autres sont restés là.
Exactement. Et puis même, il y a des gens qui passent. C'est un lieu de passage. Aujourd'hui, à Calais, il doit y avoir environ 500 personnes, 400, 500 personnes.
Avec une situation humanitaire déplorable.
Ah oui, exactement. Bien, les gens dorment dehors, il y a beaucoup de violence à l'égard des exilés, les tentes sont cassées, sont abîmées, il y a les policiers qui utilisent des gaz, parfois l'eau est coupée, c'est très dur de prendre une douche, c'est même quasiment impossible quand on est un exilé.
Cyril Anap, vous êtes penché sur le camp de la Linière à Grande-Synthe, pas très loin de Calais d'ailleurs. Quel a été le travail que vous avez mené là-bas?
Alors,
en tant qu'architecte.
Justement, enfin, je réagis aussi sur Calais parce que on avait beaucoup travaillé sur la jungle de Calais à l'époque, et qui était, alors que tous les médias dominants, entre guillemets, la décriaient beaucoup, c'était quelque part l'endroit le moins pire de France quand on était migrant. Il y avait des tas de gens qui habitaient dans la jungle de Calais. Et qui ne voulaient pas forcément aller en Angleterre, mais parce qu'il y avait même des gens qui avaient le statut de réfugiés, il y avait même des SDF, etc. Et il faut prendre conscience de ça. Alors, à Grande-Synthe, il y avait un maire qui avait une position complètement opposée.
Damien Carême.
Voilà, Damien Carême à la maire de et au gouvernement de l'époque, qui s'est dit, mais il faut construire l'accueil. Et construire l'accueil, ça pose des questions justement sur la forme des villes, sur l'architecture, sur l'urbanisme. Et la question, c'est que, je veux dire, l'exemple le plus classique, c'est la Palestine. On sait quand on ouvre un camp, mais on ne sait jamais quand on le ferme. Et bien souvent, on le voit dans des quartiers comme Sabra, ça devient des quartiers de ville. Donc nous, en fait, ce qu'on avait fait, c'était Médecins sans frontières, qui construisait le camp avec Damien Carême, et on leur a dit, mais attention, c'est pas un camp que vous construisez, c'est un nouveau quartier de votre ville. Et en fait,
avec l'idée d'habitat plus durable,
On s'inscrivait dans le temps long. Et ça, c'est ça qui différencie un camp d'un quartier d'accueil, c'est d'une réflexion sur le temps long. C'est-à-dire qu'on sait quand on rentre dans un camp, mais la moyenne mondiale quand on rentre dans un camp, c'est 17 ans. On en sort au bout de 17 ans. Donc il y a quand même des choses où il ne faut pas penser que la précarité, il ne faut pas penser que mettre des boîtes de sardines les unes à côté des autres, mais il faut penser ça comme quelque chose. Alors le film d'Antares Bassis dont vous parliez, qui sera diffusé la semaine prochaine là, sur France 3.
Sur votre travail au camp de la Lumière.
Voilà, c'est tout. Il ne montre pas que mon travail, parce que mon travail c'était une goutte d'eau dans quelque chose de beaucoup plus large, et y avait, c'était une tentative de construire ça. Ce qui s'est passé à la Linière, c'est qu'on a un État qui a voulu, qui voulait pas de ce camp, de la Linière, parce que ce camp disait qu'on pouvait accueillir, et en gros a réussi, par la négative, à créer les conditions qui ont mené à son incendie.
Alors on a retrouvé un extrait du témoignage de Baran, afghan, la vingtaine, rencontré à Calais par Antoine Alain Despet. On va l'écouter.
My friend, he is 15 years old.
Mon ami, il a 15 ans et hier il dormait ici dans cette petite jungle et la police est venue et l'a frappé puis a gazé nos tentes et nos couvertures. Vous pouvez aller vérifier.
Comment faites-vous pour aller aux toilettes?
On n'a rien, pas de toilettes. Nos toilettes, c'est dans la nature.
Et pour l'eau?
On n'a pas d'eau non plus. Ce sont juste des bénévoles qui nous apportent de l'eau et je les remercie. Mais c'est juste pour boire. Moi, dans cette situation, cela fait une quinzaine de jours que je n'ai pas pris de douche. Alors ce que je fais, c'est prendre une bouteille et je me rince avec. Si la situation en Afghanistan était stable, je ne critiquerais pas les gouvernements européens. Mais là-bas, la situation est terrible. Qui voudrait quitter sa famille pour venir ici, vivre sans nourriture ni douche? Si en France, on me donne maintenant un papier pour rester et qu'on me garantit que l'on ne me renverra pas en Afghanistan, ça me va. L'Angleterre n'est pas mon pays d'origine et je sais bien qu'ils ne me donneront pas de passeport. Moi, la seule chose que je veux, c'est vivre un peu mieux que cette vie dans la jungle. Je demande au gouvernement français, voudriez-vous être dans notre situation avec votre famille juste pour 5 minutes? Je veux qu'ils viennent s'asseoir avec nous 5 minutes juste pour voir.
Alors la question qui se pose quand on entend ce témoignage de Baran, c'est pourquoi un tel accueil? Est-ce qu'on a l'idée aussi d'un appel d'air selon laquelle si les migrants sont bien accueillis en France et ailleurs, cela va attirer d'autres, leur palin?
Alors la question de l'appel d'air, c'est une notion en fait qui est souvent reprise par les politiciens.
D'extrême droite, mais pas seulement.
Pas du tout uniquement d'extrême droite, vraiment tout le panel des politiciens ou presque l'utilise. C'est aussi un moyen pour mettre en œuvre des processus pour entraver les personnes en amont pour qu'elles ne puissent pas quitter le territoire d'où elles veulent partir. Par exemple, les visas de transit aéroportuaires qui empêchent les personnes, qui obligent les personnes d'avoir un visa uniquement pour transiter par un aéroport alors qu'elles sont légalement admissibles dans un autre. Tout ça répond à une logique d'appel d'air et ce sont des populations particulièrement vulnérables, comme par exemple le dernier VTA qui a été mis en place, c'est celui pour les Syriens, qui a été mis en place en 2013, qui est toujours d'actualité, et ce qui signifie que les personnes ne peuvent pas quitter, ne peuvent pas prendre l'avion, ne serait-ce que pour transiter dans un aéroport français, alors qu'elles voudraient aller ailleurs pour demander une protection.
Sabah Rahmani.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on est loin de l'idéologie du fantasme, ne pas accueillir toute la misère du monde, puisque les chiffres le montrent très bien. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, que la Turquie a accueilli près de 3 millions de migrants sur son territoire, alors que l'Europe n'atteint
pas ce... Principal pays d'accueil au monde.
Exactement, et alors que l'Europe toute réunie n'atteint pas ce chiffre. Et ce qu'il faut savoir avec ces chiffres, c'est que c'est très révélateur et ça casse beaucoup de préjugés, notamment en deuxième rang, c'est le Pakistan, avec 1,4 million de personnes accueillies, le Liban avec 1 million, l'Iran près d'un million aussi, l'Ouganda un peu plus de 900 000 et l'Éthiopie autour de 800 000. Donc vous voyez bien que dans ce classement qui est donné par l'ONU, on est très 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 loin de cette peur idéologique qui est véhiculée par des politiques migratoires et qui répondent pas en fait à la réalité.
Et néanmoins, il y a quand même la question des opinions. En France, selon un sondage IFOP, seulement 56% de la population française pense qu'il est de notre devoir d'accueillir ces populations. Laure Palin, ce chiffre vous fait réagir?
Oui, parce que je pensais que le chiffre était un petit peu plus élevé sur certains sondages qui ont été...
Ça dépend à chaque fois des sondages.
Mais sur ce genre de chiffres, justement, il y a une chose, c'est que dès que... Les politiciens ont un rôle énorme là-dessus. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de Calais et de Grande-Synthe aux dernières élections présidentielles, à Grande-Synthe, alors que dans toute la région, on avait Marine Le Pen qui était en tête, aux élections de Grande-Synthe, alors que c'est une ville qui est très pauvre, où il y a un taux de pauvreté qui est sans commune, qui est vraiment terrible, un taux de chômage terrible, etc., Marine Le Pen était en deuxième position aux élections, sous le score de 30%, etc. Donc là, il y a quand même un rôle très important de la parole politique là-dessus, et malheureusement, on doit constater qu'on a un gouvernement, et en particulier un ministre de l'Intérieur, qui propage une parole, qui pousse les gens à avoir ce type de raisonnement.
Alors, il y a aussi donc ce projet de loi très contesté pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. C'est son nom. Le texte va passer de nouveau en séance publique à l'Assemblée nationale le 25 juillet. Alors, que prévoit ce texte, Laure Palin?
Alors, dans les grandes lignes, et je vais surtout vous parler de ce qui se prévoit à la frontière ou de ce qui ne prévoit pas. Globalement, il prévoit un renforcement des conditions de rétention pour les personnes qui sont déjà présentes sur le territoire, l'administration souhaiterait expulser, avec un allongement des délais de maintien. De même, une simplification de la procédure d'asile sur le territoire. Pour ce qui concerne la frontière, il n'y a pas beaucoup d'évolutions, comme en général, pas beaucoup d'évolutions positives sur la frontière lors des différentes dernières réformes législatives. Il est prévu deux choses qui font en fait reculer l'accès au juge pour toutes les personnes qui sont privées de liberté aux frontières, avec le développement de la visioconférence, que ce soit pour les personnes qui sont en rétention ou en zone d'attente, pour les audiences devant le juge des libertés et le tribunal administratif. Ce qui fait qu'en fait, il y a un recul de l'accès au juge, une justice d'exception qui est renforcée notamment dans le cadre de projets de délocalisation des tribunaux de grande instance loin de leur juridiction principale, comme on l'a vu récemment avec la délocalisation du tribunal de grande instance de Bobigny au pied des pistes de l'aéroport de Roissy, au pied de la zone d'attente, au sein de la zone d'attente de Roissy.
Au plus près de l'arrivée, en fait, de ces personnes.
Exactement, pour les éloigner. Ce qui implique, en fait, un éloignement du justiciable, du juge qui est censé être le garant des libertés, et du coup, qui isole et le juge et les avocats, et bien évidemment la personne. Et à partir du moment moment où, les audiences se feront par visioconférence, la personne sera seule et le juge sera dans son bureau. Et du coup, ça sera un double éloignement. Ce que la loi prévoit également pour la frontière terrestre, c'est que les conditions qui sont applicables en zone d'attente pour les personnes qui font l'objet d'un refus d'entrée, c'est-à-dire la procédure applicable aux frontières, c'est que les garanties pour les qui sont les garanties notamment de respect du droit au jour franc, c'est-à-dire que pendant 24 heures, les personnes ne peuvent pas être éloignées, qui ne sont pas de fait appliquées à la frontière franco-italienne depuis plus de deux ans et demi et qui du coup ces pratiques violent la loi depuis deux ans et demi. La loi actuelle prévoit de mettre en conformité les pratiques illégales avec la loi parce qu'elle prévoit que cette disposition ne sera plus applicable à la frontière.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour vos questions, vos commentaires. Et d'ici là, vous restez avec nous, on continue de parler de l'accueil réservé aux personnes migrantes en Europe et notamment en France. Quels espoirs, quelles initiatives positives, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, bienvenue, c'est signé Smarty et c'est sur RFI.
Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. T'es bienvenu chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, yeah. Chez moi c'est ton toit. Un jour j'ai quitté mon village, je suis parti sans alibi. J'ai traversé plein de rivages, j'ai vu les ruines de la Libye. On m'a dit aime ton Afrique, si tu t'en vas c'est que te lâche. Dans cette pauvreté démocratique, on ne vit que d'eau et de calache. Beaucoup de présidents africains ont la double nationalité. Pour un firangle qui pousse à la main, c'est à Paris qu'ils vont tous se soigner. Ah, eh. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Et bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Et bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. J'ai fui la politique et les moustiques, je traversais la Méditerranée. La crise n'est pas qu'économique, on se fait niquer depuis des années. Je préfère éviter les flics de la France que feinte les balles d'une guérilla. Sans papier, je tente ma chance. J'ai fait le choix de ne pas crever là. Chez moi, ça cultive le cacao sans connaître le goût du chocolat. C'est comme prendre une femme en cadeau sans que son père ne mange la cola. Ah, eh. Je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. Et bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. Et bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Tout le village a cotisé, dans mon dos je sens beaucoup de regards. Y'a pas d'eau, y'a pas d'électricité, les politiques n'ont aucun égard. Ma famille attend de moi que j'économise pour le retour. Et beaucoup ne veulent pas de moi, ils veulent me foutre dans l'avion retour. Donc je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Marie, je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Et bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit.
Quel accueil pour les migrants en Europe et en France? C'est la question qu'on pose aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Aux mots accueil, solidarité, asile, certains répondent sécurité, chômage, comme si deux visions, seulement deux, s'opposaient, irréconciliables. Alors le Conseil constitutionnel français a tranché, le délit de solidarité n'existe plus officiellement en France. Sommes-nous devenus pour autant plus solidaires en tant qu'État? Pourquoi ne pas changer aujourd'hui de regard sur les migrants pour changer d'accueil avec nous pour emprunter ce virage? Cyril Anap, architecte qui réfléchit à la transformation de Caen en quartier d'accueil, et pour lui l'architecture est un droit de l'homme. Sabara Mani, rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen, qui consacre un dossier spécial à cette question de l'accueil des migrants. Laure Palin, coordinatrice de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, et Antoine Lalanne-Desmé, journaliste à RFI, producteur cet été de l'émission Les ondes de l'exil, extrait d'ateliers radio menés au Liban, en Grèce et en France, à Calais. Dans un tel contexte d'emballement politique, médiatique, un peu de sagesse ne fait pas de mal. Je vous propose d'écouter François Errand, démographe, sociologue et anthropologue, qui veut aller bien au-delà des fantasmes.
Qu'on le veuille ou non, nous devons faire avec l'immigration, tant elle est ancrée dans nos sociétés. De là le titre de l'ouvrage que j'ai publié à la découverte, Avec l'immigration. Cette neutralité engagée ne concerne pas uniquement les chercheurs. Le débat sur l'immigration gagnera en maturité si nous refusons la logique binaire du pour ou contre, de la bien-pensance versus le politiquement correct, de l'angélisme face au principe de réalité et autres tenailles rhétoriques qui tuent le débat au lieu de l'animer.
Antoine Alain Desmet, qu'est-ce que cela vous inspire ?
En fait, j'ai pas tout entendu. Excusez-moi, Charlie, j'ai pas vraiment entendu le son que vous avez choisi.
L'idée, donc, d'un accueil plus large des migrants et de reconsidérer les migrations qui sont universelles et qui ont lieu depuis bien longtemps. Laure Palin, le délit de solidarité n'existe plus, officiellement ?
Non. Malheureusement, non. Si le Conseil constitutionnel a consacré pour la première fois l'application du principe de fraternité le 6 juillet et qu'il a inclus dans les clauses d'immunité la circulation, il n'en reste pas moins que l'aide à l'entrée sur le territoire constitue toujours un délit. Et ce que la décision du Conseil constitutionnel précise, c'est que oppose l'aide à l'entrée à l'aide au séjour et à l'aide à la circulation. Et ce qui est extrêmement grave, parce que du coup, on a l'impression effectivement que le délit de solidarité a été supprimé par le Conseil constitutionnel. C'est pas le cas pour l'aide à l'entrée. Et surtout, au-delà de la question du délit de solidarité, se pose la question de la criminalisation plus large des aidants, des pressions, des intimidations qui sont de plus en plus importantes, l'utilisation d'autres délits pour mettre la pression sur les militants. On a beaucoup vu ça à Calais, mais pas uniquement. Du coup, c'est vraiment un changement qui appelait auprès des politiques pour que les personnes soient protégées, que les aidants soient protégés, qu'ils ne soient plus mis en danger du fait de la solidarité et de la fraternité.
Il y a des progrès à faire de ce point de vue-là. Sabah
Ramani. Oui, je pense qu'il faut faire attention aussi aux mots, parce que l'aide à l'entrée, finalement, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger, c'est non aide assistance à personne en danger. Parce que quand les personnes traversent le col de l'échelle vers Briançon et qu'il y a eu plusieurs morts et qu'elles meurent et que ces personnes sont poursuivies soit par des groupuscules d'extrême droite ou par la police, et que si ces personnes, les habitants, les citoyens ne viennent pas à l'aide à ces personnes qui sont en danger de mort, parce qu'il faut dire les mots, je pense que là on n'est même plus dans la solidarité, on est dans l'assistance à personne en danger, tout comme les personnes qui se noient dans la mer, et qu'il est important de remettre les choses et les mots dans leur contexte.
Alors vous proposez avec votre magazine de changer de regard pour changer d'accueil. Pourquoi ? Pourquoi cela vous semble important aujourd'hui ?
Oui, parce que médiatiquement et politiquement, on entend toujours les discours dominants, majoritaires, et puis dans le silence se font des initiatives partout en France, positives, constructives, solidaires, et même politiques, parce que dans les politiques locales, il y a des maires qui sont engagés, où les initiatives finalement se passent très bien, on en parle beaucoup moins. Et c'est dommage, donc nous à Keizen, où on se donne une idée éditoriale d'accompagnement de transition, de changement positif de société, on avait envie de montrer cet aspect-là de la migration qui est quelque chose de positif. Bon, j'ai quand même envie aujourd'hui, exceptionnellement, de faire un petit aparté parce que l'équipe de France est championne du monde et nous avons la mémoire courte. Tous ces sportifs, ces gagnants viennent aussi majoritairement en très grande majorité d'une histoire migratoire. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de migration, il ne faut jamais l'oublier, je pense qu'il faut le garder en tête. Et dans toutes ces initiatives locales, finalement, une fois que la peur est dépassée, il y a autre chose qui se joue et c'est ça qui est intéressant. Je voudrais juste aussi rajouter que ce numéro, ce dossier spécial migrant, changer de regard, changer d'accueil, c'est le numéro de mai-juin, il n'est plus en kiosque, mais il est sur notre site internet et il est accessible.
Alors dans ce numéro, vous mettez en avant des exemples positifs, notamment en Lozère, des villages qui étaient plutôt déserts, qui se sont enrichis après l'arrivée de migrants.
Exactement, parce que dans les années 2000, donc c'est un village de 300 habitants qui s'appelle Chambon-le-Château. Il a connu la fermeture d'une entreprise laitière, il a connu la fermeture aussi d'un centre de formation. Et au début milieu des années 2005-2010, il y a un centre, un CADA, c'est-à-dire un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui a ouvert il y a une quinzaine d'années pour pouvoir accueillir des demandeurs d'asile, une cinquantaine centaine sur les 300 habitants. Et on s'est aperçu avec le recul, parce qu'avec les années, on peut juger les choses autrement, que ces migrants ont apporté un renouveau de les commerces, les écoles, se sont réappropriés, sont réanimés. Il y a plus d'activités dans le village. Il y a des boulangeries qui ont réouvert, des pharmacies qui sont plus en activité, les commerces. Et finalement, dans cette cohabitation qui se passe très bien, il y a même la police dit qu'il n'y a aucun problème de délinquance. Donc là aussi, toutes les barrières mentales et de peur tombent, puisque c'est la réalité qui parle.
Vous évoquez aussi des cas d'agriculture urbaine.
Oui, tout à fait.
À laquelle participent
à Paris,
plusieurs migrants à Paris.
Dans un squat dans le 19e arrondissement. Donc, y a une association qui a mis en place un atelier de potager pour reconnecter les personnes non seulement à la terre, mais aussi dans le vivre ensemble, puisqu'on sait très bien que l'activité du jardinage, ce n'est pas qu'une activité de jardin potager. Ça crée du lien, ça crée de la solidarité, il y a des échanges. Donc ça donne des anecdotes très sympathiques où des personnes qui étaient agriculteurs ou de milieu rural en Afghanistan viennent ici, découvrent les poireaux, les comparent avec leurs légumes du pays, font des échanges avec les personnes et chacun échange aussi sur ses techniques agricoles traditionnelles et d'autres qui n'étaient pas du tout agriculteurs découvrent l'activité et finalement à travers symboliquement ce travail de la terre, hein, puisque le migrant est un déraciné, finalement l'enracine dans une nouvelle possibilité de vivre ensemble.
Alors on va écouter un extrait du documentaire La Ville Monde auquel vous avez participé, Cyril Hanap. C'est le maire Damien Carême, le maire de Grande-Synthe.
J'ai toujours annoncé qu'on faisait un camp pour accueillir toutes les personnes, pour déménager toutes les personnes qui étaient sur le Baroc à la Linière, et qu'au fur et à mesure des départs, on réduirait le camp. Et qu'un jour, il disparaîtra. Pourquoi ? Parce qu'on a répondu avec ce camp à une urgence humanitaire. Mais les conditions de vie pour ces réfugiés-là, c'est quand même une vraie merde. Mmh. Même sur le camp actuel, c'est moins la merde que ce qu'ils avaient avant, c'est moins la merde qu'à Calais. Mais je vous mets au défi d'aller vivre un mois sur des cailloux, dans une cabane de 7 mètres carrés, en bois, dans laquelle ils caillent, d'aller, quand vous avez envie de toilette, vous rhabiller votre manteau pour aller à 50 mètres de là. On parlait des mecs qui venaient des mines et le progrès social tout à l'heure. Même chose pour aller chercher un peu d'eau, parce que le point de flotte, il est là-bas. D'aller chercher 3 repas par jour quand on veut bien vous servir, sans choisir ce que vous allez manger, parce que c'est comme... Enfin, c'est pas viable. Enfin, pour moi, c'est une urgence humanitaire. Je pense que dans notre pays, en France, on a la possibilité d'accueillir ces personnes-là dans d'autres conditions que dans des camps comme cela.
Damien Carême, maire de Grande-Synthe. Cyril Hanap, en quoi l'architecture vous paraît importante dans ce débat ?
J'entendais madame à côté parce qu'effectivement...
Sadar Rahmani,
parce que c'est la question des migrations, des gens qui arrivent, ils nous reposent des questions sur plein de choses. Et entre autres sur la manière de faire la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'agglomérations, on voit bien qu'il est impossible d'habiter. Et s'il y a des lieux qui se développent, comme la jungle de Calais, comme le camp du millénaire, comme Grande-Synthe, etc., c'est parce qu'il y a un besoin humain qui se fait jour et que la ville telle qu'elle se fabrique ne fonctionne plus. Et alors, il y a toujours eu un grand paradoxe, parce que Damien Carême a raison de dénoncer les conditions d'accueil qu'il y avait dans son propre camp. Et en plus, paradoxalement, ou doublement paradoxalement, la jungle de Calais, quelque part, où il n'y avait aucune intervention publique, offrait des conditions qui étaient quasiment meilleures que le camp de Grande-Synthe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un regard qui venait des gens, qui venait des citoyens, qui venait des migrants, qui venait des associations impliquées, etc. Alors que à Grande-Synthe, on était dans une approche un peu plus traditionnelle à la française. L'État avait désigné pour gérer le camp une association qui voulait bien faire, il n'y a aucun doute là-dessus, et qui est habitué à gérer des maisons de retraite. Et j'ai envie de dire que le même défaut qui existe aux maisons de retraite a existé dans le camp de Grande-Synthe, c'est-à-dire où il y avait une espèce d'approche qui venait du haut.
Verticale.
Verticale, où alors on vous donne à manger, vous cuisinez pas surtout. On va enlever les ordures, hein. Vous y participez pas surtout. Et c'est toujours un truc, et surtout, dès qu'il y avait un petit commerce qui émergeait, dès qu'il y avait une activité, quelle qu'elle soit, qui émergeait, il y avait la police qui débarquait et qui cassait tout, ce qui n'était pas le cas à Calais.
Alors l'idée, c'est donc d'impliquer en fait les habitants des camps dans leur camp.
Voilà, et c'est là aussi que ça m'intéresse. Ça nous intéresse tous plus largement. C'est-à-dire que justement, ces questions-là nous reposent des questions sur les manières de faire les villes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que dans une grande ville en région ou même on décide de construire un nouveau quartier, on n'arrive qu'à produire des quartiers extrêmement stériles où on est capable que de se déplacer en voiture pour aller rejoindre des centres commerciaux, etc. etc. Là, justement, à cette espèce de croisement de Calais et de Grande-Synthe, il y avait quelque chose d'autre qui pouvait s'inventer. Et à chaque fois, on voit qu'il y a d'autres choses qui peuvent s'inventer au croisement de la solidarité, au croisement de ce que des habitants eux-mêmes. Mais encore une fois, la jungle de Calais, par exemple, c'était un mélange complètement fou. Il y avait des associations du monde entier qui venaient participer et se rencontrer, etc. Pendant les meilleurs mois de la jungle de Calais, entre guillemets, c'est la ville de Calais, c'est une ville qui se meurt. Où il n'y a plus aucun commerce, vous voulez dîner le soir à Calais, vous ne savez pas où dîner, etc. Et bien si à l'époque vous saviez où dîner, vous alliez dans la jungle, et là vous rencontriez de la solidarité, plein de choses absolument extraordinaires. Donc tout ça, ça nous pose des questions positives, hein, et ça renvoie à ce que vous disiez là à l'instant sur l'équipe de France peut-être aussi, ou quoi. C'est-à-dire que les migrants, c'est des gens extraordinaires. Alors, le petit paradoxe à chaque fois, c'est que c'est souvent les meilleurs, entre guillemets, de leur communautés qui viennent jusqu'à nous et que
en tout cas ceux qui ont le plus les moyens de venir surtout
oui mais enfin voilà et que voilà c'est le petit paradoxe
en tout cas vous avez pu élaborer avec eux des habitats en bois dans ce camp de la Linière qui finalement a été détruit par un incendie un peu plus tard mais vous avez pu réaliser cette démarche là
mais ce qui m'intéressait dans tel qu'il avait été conçu à l'origine c'était que ça donnait une base qui pouvait se transformer. Mais en fait, très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une approche un peu étatique, justement, qui a dit « Ah non, vous ne transformez plus les maisons. Vous ne faites plus de commerce, vous n'avez plus d'initiative, vous restez dans vos cases en bois. » Et c'est là que, justement, quelque part, peu à peu... Et puis ce discours sur le fait que le camp c'était bizarre parce qu'ils enlevaient les cabanes. Et il y a eu une époque, effectivement, où la population du camp a baissé, puis elle a réexplosé quand le camp de Calais a été détruit. C'est-à-dire qu'elle était descendue à 700 personnes, elle est remontée à 2500 personnes. Et ils n'ont jamais remis les cabanes qui avaient été enlevées. Et là, effectivement, on s'est retrouvé dans des conditions absolument délétères dans le camp.
Antoine Nalandesmé, changer de regard, cela peut aussi passer par la radio, en impliquant notamment aussi les personnes migrantes.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a vraiment des enjeux au niveau du territoire, c'est évident. En Grèce, quand on a fait les ateliers radio, on a vu deux modèles complètement différents. Il y avait par exemple l'île de Lesbos, où vous pouvez aller vous promener dans l'île, au café, etc. Et vous ne voyez pas une personne migrante. Mais par contre, si vous sortez de la ville, il y a un camp gigantesque, débordé, où il y a des gens de partout. Et en fait, il n'y a aucune mixité en fait, dans le territoire. Et d'un autre côté, on a vu une ville qui s'appelle Kilgis, par exemple, où les habitants de cette ville ont cherché à impliquer les nouveaux arrivants, les étrangers qui étaient là en faisant toutes sortes d'ateliers, etc. C'est là d'ailleurs où est intervenue la radio. Puisqu'on a créé des ateliers radio entre les locaux et des personnes migrantes.
Et vous allez notamment le faire aussi en Italie, hein, avec des villageois. L'idée, c'est d'impliquer aussi des habitants.
Exactement, oui. En Italie, il y a tout un programme pour l'accueil des personnes migrantes dans des petites villes, même dans des villages. Donc on fera ça bientôt en Italie, en espérant que ces lieux, puisque la situation est un peu complexe en ce moment en Italie et ça peut bouger assez rapidement. Mais tout à fait, hein, nous, on a dans ce genre de village, en fait, finalement, il y a des écoles qui se réouvrent, en fait, parce qu'il y a des nouveaux arrivants, ils sont intégrés dans la dynamique du village, et tout d'un coup, il y a du monde, donc on peut remettre des gens dans l'école, donc on peut réouvrir l'école.
Alors c'est un défi existentiel, cette question de l'accueil qui se pose à l'Europe, à notre identité, à l'hospitalité, Sabah Ramani.
Oui, ça nous réinterroge tous, hein. On est tous concernés par cette question d'identité, puisque l'identité, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de mouvant. Même nous-mêmes, dans notre propre parcours personnel, notre identité peut changer au fil de la vie, et que l'identité ne se résume pas à une patrie, à un état, c'est aussi qu'elle se construit au fur et à mesure de la vie, et dans l'échange avec la rencontre avec l'autre, tout simplement, qu'il soit notre voisin de la maison d'à côté, ou qu'il soit notre voisin du pays d'à côté. côté ou de l'autre côté de la planète, on est tous sur la même planète. Donc, à un moment donné, de ne voir que les avantages de la mobilité, c'est une chose, mais de vouloir occulter la solidarité avec ceux qui sont les plus démunis et ceux qui souffrent de conditions extrêmes dans leur pays, c'est se mentir à soi-même.
Laure Palin, vous êtes d'accord ?
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais et pour en revenir peut-être à ce qu'on disait en début d'émission, c'est que ce qui est important aussi, c'est que les autorités respectent les lois qu'elles ont créées, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau français à l'heure actuelle, et qu'elles respectent aussi les principes du droit international, comme par exemple, pour ce qui est de la zone d'attente, la fin de l'enfermement des mineurs. Ce serait une bonne chose parce que la zone d'attente est le seul lieu privatif de liberté en France où des mineurs isolés peuvent être privés de liberté. Donc du coup, nous, on accompagne régulièrement des enfants qui sont tout seuls et qui peuvent avoir 3 ans, 6 ans et qui sont privés de liberté pendant une durée assez longue. Et on connaît les conséquences de la privation de liberté sur le développement psychologique des personnes et des enfants. Un autre exemple serait celui, par exemple, de la fin du régime d'exception en Outre-mer, et notamment à Mayotte, où les pratiques sont vraiment sont vraiment différentes du reste du territoire français. Et ça, c'est très dommageable.
Il faut respecter les lois qui existent déjà, les droits. Sabara Mani.
Oui, je voulais ajouter que dans notre dossier aussi, la particularité qu'on a relevée, c'est les témoignages des Français qui accueillent ces migrants, et que cet accueil se fait dans la joie, se fait dans vraiment dans quelque chose de positif, où on a des retraités ou des personnes seules, des femmes seules, qui, en aidant l'autre, s'aident elles-mêmes parce qu'elles retrouvent un sens aussi à ce qu'elles font dans leur vie. Et ça, c'est vraiment très très intéressant, parce que les témoignages sont super positifs.
Merci à vous, Sabara Mani, Cyril Hanap, Laure Palin. Merci également à vous, Antoine Alain Desmé. Je rappelle que tout l'été, chaque samedi à 14h10 heure de Paris, 12h10 en temps universel, vous nous proposez les meilleurs extraits des ateliers radio menés au Liban, en Grèce et à Calais, en France, dans les ondes de l'exil. On va mettre votre page en lien sur notre site internet. Vous pouvez aussi retrouver, si vous le souhaitez, le site Infomigrant, site d'information à destination des migrants. Et dans un instant, c'est l'Afrique qui gagne dans cette milliard de voisins. Chaque lundi, en fin d'émission, nous donnons la parole à un entrepreneur, influenceur ou simple acteur de la société civile sur le continent africain. Mais d'abord, une autre voix, celle du rappeur Fardin, réfugié afghan, qui a composé cette chanson bénévole au camp de réfugiés de Kara Tepe en Grèce. Ça s'appelle Hardway et c'est sur RFI tout de suite.
Hello, I'm Fardin from Afghanistan. In Lesbos, but from Herat Basan. This is no bullshit, this is my story. If you get offended, well, I'm sorry. I'm here to tell you about immigration, the refugees problem and discrimination. I had to leave my country because of the war. Some people rich, but most of them poor. I came to Iran to see if it could be better, but when I got there, it was worse than ever. People looked to me with a lot of despise. I felt so bad, felt the anger arise. In a country that you don't have any rights, how can you live? How can you fight? That's when I heard about the promised land. Now that I'm here, I don't understand.
Noir et fier, c'est le nom de la marque qu'a lancé Christian Zelat, entrepreneur français de 36 ans dont la famille est originaire du Congo-Brazzaville. Lui a grandi dans les Yvelines, en région parisienne, et c'est en 2004 qu'il lance Noir et fier. Plus qu'une marque, c'est un concept qui rencontre un certain succès. Aujourd'hui, sa page Facebook comptabilise plus d'1 200 000 abonnés. Portrait au micro d'Alice Milo.
La marque Noir et Fier, c'est tout simplement un t-shirt noir, un beau t-shirt noir, où il est écrit en blanc noir et fier. Voilà. Avant la création du t-shirt, j'avais quelque chose qui à l'intérieur était là en moi et qu'il fallait que ça sorte. Donc je griffonnais beaucoup. Je me souviens très bien, quand j'étais dans le train, dans la RERD, j'écrivais, je disais, est-ce que ma couleur est un problème, j'en suis noir, mais j'en suis fier, enfin voilà. Il y avait tout ça, en fait. C'était vraiment très personnel. Et on a commencé à diffuser les t-shirts, et ça a été vraiment un raz-de-marée. Ça a commencé dans la rue, et comme je dis souvent, notre premier réseau social, à nous, c'était la rue. Parce que notre t-shirt nous permettait de nous connecter, en fait, entre nous. C'est comme si c'était un point de ralliement. Il fallait voir un petit peu quand les gens portaient le t-shirt noir et fier. Des fois, on ne se connaissait pas, et une autre personne avait le t-shirt noir et fier. Et c'était fort, quoi. Et très vite, ça a pris dans les quartiers.
Qui achetait ce t-shirt, alors ?
99,9%, c'était des noirs, tout simplement. La solidarité était vraiment nécessaire, et de ne pas faire de différence sur le niveau de mélanine qu'on pouvait avoir. Je veux dire, dans le sens où, ben, moi, je suis noir foncé, ou moi, je suis noir clair, ou moi, je suis machin. Ouais, moi, ma mère, elle est blanche et tout, mais mon père, il est noir. Enfin, voilà, non, nous, c'était noir et fier, et puis on y va. Moi, je voyais certains qui aimaient se défriser les cheveux, mais dans un sens où c'était pas le côté artistique, c'était le côté je me défrise pour gommer ma négritude. Et c'était, on sentait que c'était, ça allait dans ce sens-là. Et là, c'est des petits exemples, mais je peux prendre d'autres exemples. J'ai vu des gens autour de moi qui s'éclaircissaient la peau. Donc voilà, à partir du moment qu'on en arrive là, c'est qu'il y a un problème. On a accepté que les Noirs puissent jouer au foot, puissent représenter la France jusqu'à son plus haut niveau, jusqu'à une finale, jusqu'à peut-être gagner une Coupe du Monde, que des Noirs puissent gagner beaucoup d'argent. Là, on a accepté ça. Mais à la même minute, on ne va pas accepter qu'un médecin noir dans un hôpital puisse soigner des gens. Enfin voilà, on va l'accepter, mais ça va être dans l'esprit, ça ne va pas être construit. Donc ça veut dire que quand on va arriver à l'hôpital, on va voir le noir, on va croire qu'il est infirmier. Voilà, ça c'est un exemple encore, mais il y en a plein d'autres exemples. Et donc après ça, ben, on a décidé de monter une structure associative qui s'appelle Noir et Fier en Action. Et en gros, c'est une sorte de fonds de dotation qui nous permet de faire certaines actions humanitaires. Donc là, on est parti au Congo, on soutient un internat orphelinat là-bas. On est en train de travailler sur le montage d'une ferme avicole, pour développer une activité de poule pondeuse, parce qu'on cherche vraiment à être dans l'autodétermination, l'autosuffisance, et pas se dire, voilà, on arrive, on va vous construire un puits, et puis voilà.
Vous ne vous êtes pas contenté de faire un t-shirt, vous avez ensuite lancé un média, Nofi, qui est la contraction de Noir et de Fier. C'est quoi la ligne éditoriale ? C'est un site internet ?
Oui, c'est un site internet. Nofi, c'est pour les amoureux des cultures, de la culture noire, des cultures afro. C'est vraiment pour ça. Et en fait, l'idée, c'est que il y a un peu de tout. On va parler de, on peut parler du Kivu, on peut parler de ce qui se passe au Kasaï, on peut parler aussi de cuisine africaine, on peut parler de cuisine créole, on peut parler d'entrepreneuriat, on peut parler d'excellence noire en France, qui est réelle.
Vous défendez la communauté noire à travers votre entreprise, votre t-shirt, votre média, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une démarche qui est communautaire et qui, du coup, quelque part, est excluante ?
Communautaire, oui, tout à fait, et complètement assumée. Et on va continuer dans ce sens-là, d'ailleurs. Je vais parler noir, je continue à parler noir, parler pour ma communauté, et parler pour les siens, ce n'est pas exclure les autres. Quand on va dans un bar aux États-Unis, il y a des bars qui sont où il n'y a que des Français. C'est dangereux, non? Et on est content lorsqu'on vient de France de trouver un bar où il n'y a que des Français et puis on va parler un peu français, ça va nous faire du bien. On va être content et après on ressort et puis on se fond dans la masse et puis on va manger un cheeseburger et après on dort, il n'y a pas de problème.
Pour vous, l'Afrique qui gagne de demain, ce serait quoi?
L'Afrique, elle gagne déjà aujourd'hui, mais elle ne le sait pas encore. Donc c'est l'Afrique qui gagne, elle gagne déjà.
Portrait de l'entrepreneur Christian Zelat. C'était notre portrait L'Afrique qui gagne de cette semaine, signé Alice Milo. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Steven Elsley à la réalisation, Cécile Lavolo en coulisses, Delphine de Dianous pour vous répondre les voisins. Merci aussi à Léa Delfoli et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, ils nous interpellent pour provoquer des prises de conscience, nous avertir d'un danger, d'un risque pour nos sociétés. Qui sont les lanceurs d'alerte ? À quel risque s'expose-t-il ? On en parle demain, les voisins.